France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Jean-Marie Lacloftine, écrivain, éditeur.
Premier épisode, parle avec elle. Bonjour Jean-Marie Lacloftine.
Bonjour Caroline Brouet.
Votre nom parle aux oreilles de nos auditeurs avant tout comme un écrivain. Vous êtes l'auteur de 30 livres, dont 16 romans et recueils de nouvelles. Des ouvrages qui ont obtenu pour certains des prix. Vous avez remporté avec Première ligne le Goncourt des lycéens en 1999. Avec Le Rouge et le Blanc, le Grand Prix de la Nouvelle de l'Académie française. Et avec Une amie de la famille, le prix Marguerite Duras en 2019. Tous ont paru, ou presque, chez Gallimard, maison d'édition où vous êtes vous-même éditeur depuis 35 ans, à peu près. Citons parmi vos auteurs pêle-mêle et sans exhaustivité Daniel Pénac, David Fuenquinos, Muriel Barbery, Carole Martinez, Leïla Slimani, Marine Diaye, Jean-Baptiste Delameau, François-Henri Désérable, Boualem Sansal, Daniel Cordier, Didier Daninx, Jean Hatzfeld, Alain Mabankou, Jean Rollin, Jean-Christophe Ruffin, belle brochette et j'ai pas cité tout le monde. Vous vivez en Touraine, mais nous enregistrons ces émissions à Paris, près de chez Gallimard, dans un lieu dont vous nous parlerez dans l'épisode 3. Et dans votre vie, Jean-Marie Lacloftine, on pourrait dire qu'il y a les livres, la littérature, c'est la vie, écrivez-vous. Il y a les rencontres et les amitiés, ça c'est fondamental. Il y a les lieux, notamment la Touraine. Quelques engagements, on nous parlerons, pour Sarajevo par exemple, des prises de position. Et les plaisirs de la vie qu'on appelle chez nous les bonnes choses. On aurait pu aussi dire les choses de la vie, puisque c'est une référence à un film de Claude Sauté que je crois vous aimez beaucoup. Mais donc les plaisirs de la table, la cuisine et le vin, bien entendu, à consommer avec modération. Je crois pouvoir dire que, en ayant lu vos livres, Jean-Marie Lacloftine, en ayant discuté avec des amis à vous, des gens qui vous connaissent bien, que vous êtes un homme, disons, entier, sensible, droit, avec quelques convictions fortes. Est-ce que ça donnerait un petit aperçu de quelques adjectifs justes vous concernant ?
Oui, merci, j'apprécie beaucoup ce résumé. Je n'ai qu'une remarque à faire, c'est sur la modération. La modération, je ne suis pas très favorable à cette notion.
Mais vous savez qu'on est sur le service public et je suis tenu de dire ce que j'ai dit.
Moi, je ne suis tenu à aucune obligation. Et puis, quant à la modération, quand vous avez dit 30 livres, ça m'a un peu effrayé. Oui, je vous crois. Et ça me fait penser à la réponse de Jean Paulhan quand on lui posait la question rituelle « Pourquoi écrivez-vous ? » Il répondait « J'écris si peu, votre reproche me touche à peine. » Oui, non, j'ai beaucoup écrit, donc sans doute trop.
C'est pas une tare, hein. C'est pas un mal. Alors, on l'entend, vous n'êtes pas très pour la modération, vous ne mâchez pas vos mots, mais j'ai envie de dire quand vous vous exprimez, parce que ce que je n'ai pas dit encore, c'est que vous n'êtes pas ce qu'on appelle un bavard. De fait, le silence a longtemps constituer la trame, on peut le dire comme ça, de votre existence. On pourrait même dire que le silence a envahi votre existence, l'a recouverte. Et puis les mots écrits, ça n'est pas la même chose que les mots dits. Vous avez accepté ces entretiens à voix nue, 2h30 de rencontre avec moi. Quelle est la place de la parole ? Quand décidez-vous de parler, Jean-Marie Lacloftine, rapport à l'écrit ?
Quand on m'y force. Je ne parle pas très volontiers, enfin...
Dans vos livres, on parle beaucoup.
Oui, mais ça ne me pèse pas du tout de parler avec vous. Au contraire, je suis très heureux de cette occasion. Mais c'est vrai que le silence, il a envahi ma vie et pas forcément de façon négative. C'est-à-dire que souvent, on parle du silence comme d'une chape, comme le couvercle d'un tombeau. Mais moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Et j'ai essayé de comprendre l'importance du silence tel que je le vis, parce que c'est vrai que je passe souvent dans mes relations amicales ou pour quelqu'un d'assez taciturne ou silencieux, mais je reste très attentif, ça n'est pas un poids, ça n'est pas une obligation, c'est simplement une nature, je dirais. Voilà, j'écoute Et j'aime aussi l'écriture pour ça, c'est que ça permet de vivre avec les mots, mais sans le tumulte des conversations.
Vous dites que vous écoutez dans votre amitié, parmi vos amis et vos relations amicales. Vous êtes quelqu'un qui écoutait aussi ou vous êtes quelqu'un qui vous confiait ?
J'écoute beaucoup, j'écoute énormément et ça fait partie du travail d'éditeur. Je pense que c'est la première chose que je fais en tant qu'éditeur, c'est d'écouter. Tout à l'heure encore, j'ai déjeuné avec un auteur pendant 2 heures. C'est principalement lui qui a parlé parce que j'écoutais ce qu'il me disait et on parlait de ses projets littéraires, du projet de son prochain roman. Ça demande une grande intensité d'écoute et j'aime ça. J'aime ça, j'adore ça en réalité. Être à l'écoute des gens et puis moi je me confie peut-être assez peu en général, mais enfin, je suis pas non plus quelqu'un de totalement renfermé.
C'est aussi le travail d'un auteur, je suppose, d'écouter pour pouvoir restituer. On dit souvent observer pour un écrivain, plus qu'écouter d'ailleurs, mais l'écoute elle est fondamentale pour pouvoir restituer la vérité des êtres et des choses.
Moi, je dirais plus écouter. Observer, bien sûr, puis ça dépend du tempérament. Certains écrivains sont peut-être plus visuels que mélomanes, disons, mais moi, je suis plus dans l'écoute. Et je pourrais écouter les yeux fermés, des confidences, être avec des gens. C'est important, évidemment, de les observer, d'être avec eux, mais avant tout, moi, c'est la voix. C'est la voix et ce qu'elle transporte.
Vous disiez que c'était presque une nature d'être silencieux ou d'être taiseux. Est-ce que vous venez d'une famille de taiseux ou est-ce que vous êtes devenu mutique par les circonstances ? On va venir d'ailleurs au drame de la vie. Dans un de vos ouvrages, Jean-Marie Laclaftine, vous écrivez « Nous sommes très forts en effacement, une famille de gomme ».
Oui, c'est vrai. Mais parce que là, j'ai écrit ça en écrivant un livre qui s'appelle « Une amie de la famille » où je reviens sur un drame qui a très profondément marqué ma famille et autour duquel s'est construit une enveloppe de silence. Mais d'une façon générale, ma famille n'était pas bavarde. Il n'y a pas de bavard dans ma famille. Alors que je rencontre des tas de gens très bavards. J'aime ça d'ailleurs, en fait, ça ne me dérange pas. Ça n'est pas en soi un défaut pour moi, tout dépend de ce qui est dit, évidemment. Mais chez moi, non, on ne parlait pas énormément. Et moi, ce qui m'interrogeait, c'était vraiment la nature du silence qui s'est constitué autour d'un deuil qui a fracassé, d'une certaine façon, la famille.
Fracasser la famille et en même temps vous dites que vous êtes né à ce moment-là. Vous écrivez « Je suis né à 15 ans ». Et c'est à 15 ans qu'est arrivé ce drame.
Oui, à 15 ans.
14-15 ans.
Voilà. Il s'agit de la mort de ma sœur aînée qui avait 20 ans à ce moment-là et avec qui nous sommes allés nous promener sur les rochers à Biarritz, sous le phare, avec mon frère aîné, Bernard, et Gilles, qui était le petit ami de ma sœur à ce moment-là. Et nous avons été emportés par une vague. Elle en est morte. Et donc cet événement-là, qui a été vraiment absolument tragique, qui a eu des répercussions extraordinaires, il est resté sous silence pendant un demi-siècle. Mais sous silence.
C'est-à-dire jusqu'à ce que vous écriviez « Une amie de la famille » paru en 2019.
Oui, et je raconte l'histoire de ce silence, justement, et qui n'était pas du tout un silence honteux, c'était un silence douloureux, c'était le silence de la perte, et ça m'a énormément interrogé pendant toute ma vie, en réalité. Et donc, j'ai écrit ce livre une fois que mes parents sont morts, parce que je pense que le silence était lié à eux, à leur douleur, au fait qu'ils étaient incapables d'en parler. Ça les avait totalement dévastés, mais en même temps, quand je dis que je suis né à 15 ans, je suis pas le seul à être né à ce moment-là. Je pense que mes parents, par exemple, sont d'une certaine façon, ils sont devenus d'autres personnes. Par exemple, ils étaient plutôt conservateurs, traditionnalistes, chrétiens, catholiques. Il faut dire que ma sœur est morte en 68, donc ça n'est pas du tout indépendant des tumultes de l'époque. Hein. Et ça les a fait complètement basculer dans leurs convictions. Je rencontrais mon père dans des meetings d'Arlette Laguiller, par exemple, à l'époque, c'est-à-dire de lutte ouvrière, alors qu'auparavant, il lisait le Figaro. Mais il s'est complètement remis en cause. Il a cherché un sens.
Ils ont gardé leur foi ?
Oui, ils sont restés très catholiques, mais ils sont devenus des militants, catholiques de gauche, quoi. Et ils ont beaucoup réfléchi, à la fois sur les évangiles, etc., mais aussi sur l'action qu'ils pouvaient avoir en tant que chrétiens dans la société, ce qui m'a été épargné. Enfin, je n'ai jamais été engagé dans cette voie-là, mais je respectais beaucoup leur façon de vivre leur foi.
Encore un mot sur le livre, sur Une amie de la famille, et sur les circonstances dans lesquelles vous l'avez écrit, Jean-Marie Laclaftine, parce que vous disiez que le silence donc avait perduré pendant un demi-siècle. Bon, vous n'êtes pas quelqu'un qui trouvait que le silence est une mauvaise chose, on l'a entendu, mais malgré tout, ce silence-là a sans doute été assez pesant. Pour écrire ce livre, je suppose que non seulement vous avez rompu le silence par rapport à vos parents, par rapport à cette histoire, mais je suppose que vous avez dû beaucoup parler à des gens, en rencontrer, beaucoup parler même de votre sœur, Dani. Est-ce que cette parole soudaine, brutale pour vous, a libéré quelque chose en vous, cette fois ? Et est-ce que, par conséquent, vous avez regretté, après coup, de ne pas en avoir parlé avant, de ce silence-là comme une chape de plomb ?
Je n'ai jamais regretté, c'est simplement comme ça. Ça s'est fait comme ça. C'était nécessaire, sans doute, ce demi-siècle. Mais quand je dis que je suis né à 15 ans, c'est aussi que cet événement, aussi douloureux fut-il, m'a amené sur des voies que je n'aurais sans doute pas suivies autrement. Enfin, je ne peux pas savoir ce que j'aurais été, parce que comme j'avais 15 ans quand ma sœur est morte et qu'il y a eu ce bouleversement énorme dans ma famille et dans ma vie, je ne sais pas ce que je serais devenu, peut-être un professeur de français ou je ne sais pas. Or là, ça m'a plongé du côté un peu rebelle. Enfin, j'étais intenable comme adolescent, j'étais révolté partout, sans mettre un nom sur cette révolte. Enfin,
en colère ?
J'étais très en colère, mais sans comprendre le lien qu'il y avait entre ma colère et ce que j'avais vécu. Et ça a été très important, très formateur et très fondateur. Oui, c'est vrai, je l'écris quelque part. Si ma sœur n'était pas morte, je ne serais pas du tout celui que je suis aujourd'hui.
Et est-ce que donc en parler pour faire ce livre, Une amie de la famille, ça a libéré quelque chose ?
Libéré, je ne sais pas. C'est venu à maturité. Il y a un moment où c'est un rêve qui m'a appelé en réalité. C'est un rêve récurrent où je voyais une femme au bord d'une place qui était en robe blanche. Et elle était de l'autre côté de la place. Moi, j'étais en train de boire une bière, une terrasse de café. Et elle me regardait fixement. Et je ne savais pas qui était cette femme. À un moment, elle appelle un enfant qui passe par là, un gamin des rues, et elle lui donne une pièce, et le gamin disparaît de ma vue, et d'un seul coup, il est à côté de la table, devant moi, avec un bouquet de fleurs blanches. Et je regarde de l'autre côté, et la femme a disparu. Et je me rends compte, à ce moment-là, que cette femme était ma mère. Et ce rêve qui est revenu, maintes fois, je me suis dit, c'est pas possible. Elle m'appelle, elle me dit quelque chose, elle veut que je fasse quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut quand même pas que je raconte sa vie. Elle était pas du tout du genre exhibitionniste, elle n'aimait pas qu'on parle d'elle, elle était très, très modeste, bien que d'un tempérament extrêmement fort. Et j'ai compris par la suite que ce qu'elle voulait que je raconte, c'était elle ou c'était moi, évidemment. C'était l'histoire de ma sœur, parce que cette robe blanche qu'elle portait, je me suis rendu compte que je la connaissais, mais que jamais ma mère ne l'avait portée. C'était la robe qui est sur une photo où l'on voit ma sœur au mariage de sa meilleure amie, où elle porte cette robe blanche sans manches. Et cette robe, je l'avais contemplée plein de fois. Et cet appel, je ne sais pas si ça a libéré quelque chose. Ça, simplement, c'était le moment. Et je ne me suis même pas posé la question, c'est devenu d'une façon naturelle comme aucun de mes livres n'est venu, parce que écrire un roman, c'est beaucoup de travail, beaucoup de tourments, de tortures. Ce livre-là, je l'ai écrit d'un jet et je l'ai écrit comme un roman. C'est ça qui m'a beaucoup frappé, parce que j'avais envie de raconter une histoire. Et j'ai raconté une histoire à partir de ce rêve, et à partir de là, j'ai dénoué les fils en essayant d'en faire quelque chose de palpitant et de vivant. Et ce livre, Une amie de la famille, c'est pas du tout une stèle que j'ai gravée pour mettre sur la tombe de ma sœur, pas du tout. C'est un livre de vie où non seulement elle est vivante et revit et montre qu'elle a toujours été là, mais tous les autres personnages de l'histoire sont là, y compris Gilles, donc le petit copain qui était avec nous lors de l'accident et que nous avons complètement perdu de vue depuis. Et 50 ans plus tard, je me suis dit, il faut absolument que je retrouve Gilles. Je dois raconter cette histoire, mais je peux pas la raconter sans lui. Parce que, dans le fond, ma sœur, avant qu'elle meure, elle avait 20 ans. Dans les dernières années de sa vie, moi, j'étais un adolescent pénible. Elle vivait sa vie ailleurs. Et donc, je ne la connaissais pas vraiment. Et tout en ayant, quand on se voyait, des relations assez conflictuelles et passionnelles avec elle. Et donc, je me dis, il faut que je sache qui elle était dans ces dernières années où je ne l'ai pas vraiment connue. Et il fallait que je retrouve Gilles. Et finalement, ça constitue une sorte de trame policière. Hein, parce que ce roman, c'est aussi la trame, l'histoire d'une enquête. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé Gilles.
Et Gilles vous a raconté qui était votre sœur, cette jeune fille que vous ne connaissiez pas, en tous les cas pas de cette façon-là. Voilà. Et on laisse les auditeurs qui n'ont pas lu le livre découvrir ce qu'il y a au fond. Mais quand vous disiez, Jean-Marie Lacaftine, que vous faites revivre peut-être cette jeune fille d'avant l'accident, ce jeune homme que vous avez retrouvé, c'est aussi tout un monde effectivement qui rejaillit à la surface. Ce monde, c'est aussi le monde de votre enfance. Avant le drame, avant la mort d'Annie, un monde qui a aussi disparu, bien entendu, mais le monde de la rue des Étables à Bordeaux, oui. Où vous avez grandi, un quartier très particulier, entre le quartier Saint-Jean, le quartier des Chartrons, avec des grands-mères qui revivent aussi dans ce livre, Marraine, par exemple. Mmh. Vous nous racontez un peu ?
Bien sûr, parce que, encore une fois, à quel point ce deuil a été l'occasion de renaissances successives. Et donc, en ouvrant le coffre aux souvenirs, mais c'est pas seulement des souvenirs, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, parce que je me suis rendu compte que, dans le fond, je n'avais fait que raconter au fil de ces, malheureusement, 30 livres que j'ai écrits. Je ne parle que de ça, dans le fond, à travers des histoires totalement différentes. Mais Annie est là partout, le deuil est là, et aussi toute cette enfance que j'ai vécue, qui était particulière. Oui, vous parlez de la rue des Étables à Bordeaux. Ce sont des souvenirs, mais d'une grande puissance. De toute façon, les écrivains utilisent ce carburant. L'enfance, c'est ce qui leur permet d'écrire, même s'ils ne racontent pas forcément des histoires d'enfance, mais toutes ces émotions brutes, puissantes, qu'on vit pendant l'enfance, elles sont exploitées, raffinées, torréfiées, distillées par les écrivains dans leurs livres. Et je revois toujours le balcon de la rue des Étables. Il y avait en face de chez nous un atelier de volaille où il y avait des femmes qui étaient assises sur des tabourets, à même le trottoir dans la rue, et qui plumaient à longueur de journée des poulets et des volailles. Et les trottoirs étaient couverts de plumes et de duvets. Et elles avaient les bras ensanglantés et elles rigolaient, elles parlaient très fort entre elles. 50 mètres plus loin, il y avait les tonneliers qui faisaient flamber les tonneaux. Tout ça, ce sont des souvenirs extraordinaires. Et puis, l'enfance, les grands-mères, évidemment, ont été très importantes. J'en avais une qui était à la Réole, la mère de mon père.
Marie-Louise.
Marie-Louise, elle était donc dans une maison isolée à 3 kilomètres de la Réole, et où nous passions toutes nos vacances, mon frère aîné, Bernard et moi. Et l'écriture de ce livre m'a permis aussi de redécouvrir que Annie n'était pas là. C'était une fille, et en fait, elle passait pas les vacances avec nous. Elle était protégée ailleurs.
Pas parce qu'elle était plus âgée.
Peut-être aussi parce qu'elle était plus âgée. Mais en tout cas,
c'est pas comme ça que vous l'interprétez.
Non, parce que ce qui était clair, c'est que nous étions totalement livrés à nous-mêmes, avec cette grand-mère qui était un peu, on disait neurasthénique à l'époque, elle était un peu étrange. Elle avait perdu son mari très jeune, et elle était un peu à l'ouest. On vivait dans des conditions très rustiques. On avait l'interdiction de rencontrer les enfants du village. Et je pense que ça a été une grande chance, parce qu'on vivait dans un monde totalement clos, qui était entièrement fait de rêves. avec mon frère, on se promenait, on traversait les champs, on allait à la pêche, mais on ne rencontrait personne. Et tout notre univers, nous étions obligés de nous le construire nous-mêmes. Et je pense que ça a été très important. Et puis après, l'autre grand-mère, c'est une personne avec qui j'ai eu des rapports extrêmement forts. J'étais très, très attaché, beaucoup plus qu'à l'autre grand-mère qui était un peu inatteignable. Elle s'appelait Rachel, et c'est surtout à l'adolescence que j'ai eu des rapports très forts avec elle. Et elle s'appelait Rachel, et ça tombait mal parce qu'elle était antisémite. Et donc, nous avions beaucoup de sujets de dissension. C'était les années 68, hein, il faut s'en rappeler.
Vous êtes né en 54.
Voilà. Et le premier livre que j'ai acheté, je me rappelle, hein, avec mes sous sur une brocante à Toulouse, c'était les œuvres de Bakounine. Et puis j'ai acheté aussi, bizarrement, le premier livre de Michel Rocard sur le PSU. Et donc j'étais plutôt dans une recherche de ce côté-là, qui était totalement contradictoire avec ma grand-mère, qui dénonçait les instituteurs communistes. Enfin bon, voilà, il faut dire qu'elle avait une vie extrêmement dure, et j'adorais cette femme.
Et c'était la marraine d'Annie.
Voilà, et c'était la marraine d'Annie qui a été d'une générosité merveilleuse. Elle était très intelligente, c'était une grande fumeuse, ça me fascinait aussi. À l'époque, je veux dire, c'est peut-être pour ça que je suis devenu fumeur à l'époque, parce qu'elle avait toujours une clope au bec avec la cendre, et je me demandais quand la cendre allait tomber, parce qu'elle ne la prenait pas avec ses doigts, et la cendre s'allongeait, je me disais, c'est pas possible, c'est une fée, c'est un miracle. Puis de temps en temps, quand elle sentait que ça allait vraiment tomber, mais la cendre pouvait faire 3 cm, là elle prenait un cendrier, hop, elle ramassait sans la toucher, elle baissait la tête pour que la cendre tombe dans le cendrier.
Et vous avez des souvenirs d'odeur du cuisine parce que vous alliez manger chez Marraine tous les dimanches avant qu'elle déménage à Bayonne. Et c'est d'ailleurs à Bayonne que vous alliez le 1er novembre 1968.
C'était aussi une grande cuisinière. J'ai beaucoup appris d'elle parce que ça me passionnait, j'étais comme beaucoup d'enfants, j'étais gourmand, mais j'adorais rester à côté d'elle, voir comment elle préparait les plats. Le souvenir de l'appartement du Quai des Chartrons, qui était un tout petit appartement en fait, mais qui était empli par l'odeur des cèpes quand elle les faisait au four, farci, c'était merveilleux, c'est inoubliable.
Et alors vous avez dit tout à l'heure, Jean-Marie Laclaftine, que vos parents étaient de fervents catholiques. Ils avaient aussi un cercle d'amis bordelais assez catholique et ils vous avaient mis dans une école catholique, l'institution du Mirail, avant Sainte-Eulalie. Vous avez fait vos catéchismes, etc. Et vous avez écrit que vous avez par la suite toujours été un fervent partisan de l'école religieuse, car c'est la meilleure fabrique d'athées militants qui soit.
Oui, absolument. Ah, oui. Oui, mais ça, j'en suis persuadé. Moi, je n'arrête pas de rencontrer des gens, ou même des enfants aujourd'hui, qui sont dans les écoles catholiques, qui sont dans une détestation militante de l'institution catholique. Moi, je suis très pour.
Alors vous disiez que vous étiez rebelle, donc on entend déjà la petite forme de rébellion dans votre bouche, et déjà dans votre bouche d'enfant ou d'adolescent.
Oui, j'étais...
Très turbulent.
J'étais turbulent, oui. J'étais apparemment tout à fait insaisissable. J'ai des souvenirs comme ça, oui.
Oui, parce que vous dites apparemment. Vous vous en souvenez ou c'est ce qu'on vous a dit?
Ben, c'est peut-être aussi tout ce qu'on m'a dit, mais j'ai quand même le souvenir de toutes les bêtises que j'ai faites. J'étais intenable, quoi. Mais bon, sans aller au-delà du...
Vous faisiez les 400 coups? Vous faisiez des tas de bêtises ou...
Quand j'étais petit, ouais, je sais pas, je pillais les troncs, par exemple. Dans des familles catholiques, c'est quand même très mal vu. Moi, le meilleur ami de mes parents, qui était vraiment presque le frère de mon père, enfin le frère de cœur, il me menaçait de l'enfer. Enfin, vraiment, le jour où il a découvert... parce que mes poches faisaient bling-bling... Il a découvert que j'avais pillé le tronc en compagnie de ses propres filles à lui, avec qui j'étais très lié, évidemment. Et donc je faisais ça. On avait en plus, ce jour-là, dévoré des hosties consacrées. Donc pas terrible.
Vous ne dévoriez pas que des hosties, vous dévoriez donc aussi des livres, puisque vous disiez qu'à 14 ans, vous aviez acheté les œuvres de Bakounine. Mais avant cela, quand même, vous étiez peut-être hyperactif, mais aussi très grand lecteur. Vous aviez demandé comme cadeau à 10 ans Les Misérables.
Oui, Les Misérables.
Vous aimiez lire.
Je n'oublierai jamais le jour où je suis revenu de... C'était même pas une librairie, c'était une sorte de supermarché où il y avait sur des présentoirs les livres de poche. Et j'avais vu Les Misérables En livre de poche, je me souviens parfaitement de la couverture blanche avec les gravures reproduites dessus. Et je suis revenu avec mes tomes des Misérables serrés contre la poitrine, mais comme si c'était un trésor absolument inestimable. Et
vous avez su que ce trésor était pour vous.
Là, j'ai su que ce trésor était pour moi.
Il y a quelque chose qui est aussi important à dire, me semble-t-il, dans cette enfance, dans ce qui vous a marqué et dans ce qu'on retrouvera par la suite dans un certain nombre de vos ouvrages, Jean-Marie Laclafty. C'est l'amour qui unissait vos parents. Vos parents étaient unis par un amour fort et indestructible. Ça paraît un peu banal, mais vous écrivez d'une force, d'une profondeur et d'une longévité exceptionnelle. Dans Une amie de la famille, vous faites état d'une correspondance entre eux. Parce que votre père était cheminot, il partait assez souvent, il a été muté à Tours, ça a été un peu un drame pour votre mère. Il s'écrivait beaucoup. Mmh. Et cette correspondance, elle va de 1947 à 1962. Et ils s'écrivent des lettres d'amour.
Mais c'est extraordinaire, oui. Intense. Et ça, c'est Gilles qui m'a fait découvrir ça. Je me suis plongé dans les correspondances. D'abord, la correspondance entre Gilles et Annie, ma sœur, que j'ai absolument découverte à ce moment-là. Et ça m'a donné envie d'aller voir dans les caisses en carton où il y avait des lettres. Je savais pas exactement ce que c'était. En réalité, c'était la correspondance amoureuse entre mes parents. Et j'ai trouvé ça mais tellement bouleversant, tellement beau. Un amour candide au sens pur, c'est vraiment merveilleux. Et jusqu'à la mort de ma mère, qui est morte à 87 ans, et mon père a été complètement dévasté par ce deuil, mais ils avaient des gestes amoureux, et des gestes et des mots, ils étaient complètement amoureux. Je pense que c'est une chance inouïe pour des enfants d'avoir des parents qui s'aiment à ce point-là.
Ça, il faut le retenir parce que c'est quand même le soubassement aussi. Oui. De même, peut-être, j'ai dit un peu rapidement, ce déménagement, la mutation de votre père à Tours, ce déménagement qui a été vécu comme un événement plutôt douloureux au départ. Et pourtant, Tours, vous en avez fait quand même votre capitale de cœur pendant longtemps, vous, en tout cas.
Oui, j'en suis parti pendant des années, mais oui, j'y ai beaucoup d'amis. Et puis maintenant, je vis en Touraine. Pas très loin de Tours, et c'est important pour moi à cause de la Loire, mais aussi à cause de tout ce que j'ai vécu à l'adolescence et après, et dans ma jeunesse, dans la Touraine. C'est très important ce que j'ai découvert comme forme de vie.
Là-bas, dans la Touraine ?
Oui. Oui, oui, parce que c'est une relation aux gens, une relation à la nature. J'aurais pu vivre sans doute ça ailleurs, hein. Mais là, il y a une forme d'existence dont Balzac parle très bien, d'ailleurs. Le côté émollient, le côté très doux, cette Turquie de la France, dit-il, où les gens ont vraiment des rapports entre eux qui sont particuliers, je trouve. Il n'y a pas cette forme d'agressivité qu'on trouve dans le Sud, par exemple, dans les rapports humains. Il y a une sorte de douceur, un peu molle, un peu lâche peut-être, mais que j'apprécie.
Un peu fainéante, on y reviendra dans le dernier épisode, dans l'épisode 5. On vous retrouve demain, merci beaucoup Jean-Marie Laclafty. À suivre l'épisode 2, la littérature c'est la vie. C'était À voix nue avec Jean-Marie Laclafty, réalisation Laure-Hélène Planchet, prise de son Martin Troadec, chargé de programme À voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.